Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une émission de sortir du capitalisme, aujourd'hui autour de la prison, avec trois invités. Nadia, auteure de « À ceux qui se croient libres », publiée aux éditions L'Insomniac en 2016. Militant anticapitaliste qui va maintenant nous livrer son témoignage de la prison, son expérience de la prison et des mécanismes qui y conduisent. Et Sam, qui est membre de l'Assemblée contre l'état d'urgence et les violences d'état de Montpellier, et qui est aujourd'hui exceptionnellement l'animateur de cette émission.
Exceptionnel.
Bon, alors, en gros, pour faire court, je vais pas raconter toute l'histoire, mais j'ai pris 2 mois ferme avec mandat de dépôt, donc ça veut dire que j'ai vraiment été en tôle, pour une accusation d'outrage que j'ai toujours nié, il y avait pas de preuves, etc. Et du coup, j'ai fait 6 semaines de prison à Villeneuve-les-Maglones. Et j'ai été condamné, par ailleurs, il y a 2 semaines, là, à 2 mois ferme, pour une accusation d'outrage nié sans preuve. Ça continue, quoi. Plus, le harcèlement continue. Bah déjà, moi, rapidement, sur cette histoire d'outrage, il faut quand même voir que là, la loi, elle a doublé. Juste rappeler ça, vite fait, en amont. C'est que tu peux prendre jusqu'à 6 mois pour une accusation d'outrage, mais en fait, maintenant, tu peux prendre jusqu'à 1 an. Et que en plus, ce qui est pire là-dedans, c'est que maintenant, il y a une anonymisation des procédures. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans le deuxième cas où j'étais condamné, le keuf qui m'a accusé d'outrage, je sais même pas qui c'est. Je l'ai jamais vu. Voilà, les flics, ils ont été dans la rue, ils ont obtenu le droit de permis de tirer à vue, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de témoignages de flics qui dégainent les armes, hein, ça sort pas de nulle part. Et là, on a, et c'est aussi le package de l'outrage, là, qui est maintenant, insulter un flic, c'est aussi grave qu'un juge. Voilà. Et ce qui est grave, en plus de ça, c'est que c'est anonyme. Donc c'est la police, l'entité police, qui porte plainte contre toi. C'est quand même du délire. Donc moi, voilà, je me suis retrouvé en tôle. Voilà, à Villeneuve-les-Maglones, l'été dernier, j'ai fêté mon anniversaire là-bas, c'était chouette. Bah évidemment, ce qui a été dit avant dans la première partie de l'émission, moi, ça résonne avec pas mal de choses que j'ai vues. Déjà, sur qui est en prison ? Eh bah, des pauvres, voilà, c'est la vérité. Des pauvres et des arabes, je veux dire, je vais pas le dire autrement.
Qui sont des arabes pauvres.
Qui sont des arabes pauvres, et inversement, en fait, dans tous les... Voilà. Ça marche bien. Alors juste, je vais reprendre quelques exemples comme ça que moi j'ai vu en prison. C'est même pas les exemples les plus fous. Hein. C'est des trucs dont je me souviens. Il y a un mec dans ma cour de promenade, il a pris 4 mois ferme. Il s'est fait choper 1 an après les faits, je crois. Et on l'a accusé d'avoir volé de la bouffe dans un supermarché. Voilà. Il y en a un autre, il a pris 18 mois ferme. Lui, il était en gros, il s'est bastonné pendant un embouteillage. C'est ça l'histoire. Le mec devant lui s'est foutu le doigt en l'air, je sais pas quoi, mais bref, c'est quand même ça l'histoire. Moi, mon co-détenu, il a pris 8 mois ferme parce qu'il a loupé un rendez-vous au SPIP. Le SPIP, c'est la nana ou le mec, la nana souvent, qui s'occupe des gens qui ont des problèmes avec la justice.
Ils suivent les peines probatoires, en fait.
Et du coup, lui, il devait voir le SPIP, il y avait une convocation au SPIP, il n'a pas été. Et en fait, il n'a jamais reçu la convocation. Et un jour, j'étais dans la cellule avec lui, et on lui donne une lettre, genre, ouais, bah en fait, c'est vrai, on reconnaît, on vous a jamais prévenu de la convocation. Mais c'est tout. Et j'ai appris qu'il est sorti bien des mois après avoir reçu cette lettre. Un autre cas complètement ouf, c'est un mec, en gros, était bourré. Voilà, en gros, était bourré, il a pris la bagnole. Bon, c'est pas bien, mais bon, voilà. C'était le lendemain de l'attentat de Nice. Et il a pris une route à 4 grammes qui était une piste cyclable. Les gens ont sorti de la voiture en mode, il va faire un attentat de Nice, il va rouler sur tout le monde, il va au procès, on lui dit attentat de Nice, vous vous rendez compte dans le contexte et tout, 6 mois ferme. Ça, c'est les histoires que j'ai vues comme ça, qui sont assez tarées. Mon voisin de cellule, pas mon co-détenu, il est rentré pour un truc, je sais plus, je crois qu'il était rentré pour 4 ou 6 mois. Il s'est retrouvé avec un téléphone dans sa cellule et en plus, il a insulté des gens à l'extérieur depuis son téléphone. C'est pas bien d'insulter les gens. Mais bon, bref, voilà. Et du coup, ça faisait 1 an qu'il était là. Donc voilà. Bon, ça, c'est pour un peu les cas concrets de qui est en prison. C'est du délire. Je veux dire, c'est pas acceptable, quoi. Si dans nos cerveaux, on est prêt à accepter que ces cas-là aillent en prison, c'est que notre société, elle est malade à un moment donné, quoi. Faut quand même se poser des questions. Ensuite, sur ce que tout le monde sait déjà, mais qui est pas mal de rappeler, c'est que la bouffe, c'est de la merde. Quand je dis que c'est de la merde, c'est que c'est parfois pas mangeable. Si tu peux tomber sur 2-3 jours de suite avec des trucs qui sont pas mangeables, si t'as pas de thune pour cantiner, je veux dire, ça devient réellement problématique. Par exemple, moi je me rappelle d'un truc, c'est un exemple que je sors souvent, mais bon, c'est assez emblématique, c'est saumon, tu vois. Tu vois, sur la cantine, saumon. C'est chouette du saumon. C'est bon le saumon, tu vois. Et donc t'arrives et tu vois, en fait, c'est un cube rose, mais un gros cube rose congelé. Donc tu peux pas le manger en fait, tout simplement. Donc tu le jettes en fait.
Parce qu'il est congelé.
Ben, il est congelé, mais il est dur, congelé. Tu peux t'en servir à la limite pour le jeter sur la gueule du maton mais tu peux pas t'en servir pour le manger, quoi. Donc s'il n'y a pas une solidarité entre co-détenus, de gens qui se font passer ce qu'ils ont cantiné, cantiné c'est quand tu achètes un peu à bouffer des pommes
super
de terre.
Super cher à l'intérieur.
Super cher, voilà. Et c'est du coup une multinationale qui s'occupe de ça. C'est à Villeneuve-les-Maglones, c'est Sodexo. Une fois, le mec, il est rentré dans la cellule, il a dit « Ouais, je vous vends des frigos, voilà, mais vous avez de la chance qu'on vous vende des frigos, parce qu'il y a des co-détenus, ils s'occupent mal de leurs frigos, et nous, on est là pour bien gérer les stocks de frigos, et c'est nous qui faisons en sorte que ça gère bien la prison. » Enfin, le mec, il gère sa prison, c'est le petit chef, c'est Sodexo. Et petite anecdote, d'ailleurs, que je mets par rapport à ça, ça, je l'ai appris après, c'est que dans les années 80, en gros, le secrétaire d'État qui s'occupait de la tôle, c'était le secrétaire d'État de la condition pénitentiaire. Et maintenant, c'est le secrétaire d'État des programmes immobiliers de la justice. Et donc, ça donne Sodexo, quoi. Ça donne Sodexo. Donc, voilà, après, dans les témoignages, je voyais un truc que je trouvais important qui avait été dit avant, là. C'était l'idée de dire que toutes les valeurs sociétés, en gros, toutes les valeurs qu'il y a dans la société sont un peu condensées dans la prison. Ben, c'est assez vrai, en fait. C'est assez vrai, et c'est pour ça que à chaque fois qu'il y a une assemblée des luttes, c'est important de parler de la prison, parce que ça fait partie d'un truc. Et quand je dis ça, par exemple, c'est vrai que bah là, dans la prison, il y a aussi ce qu'on voit à l'extérieur aussi, il y a une répression par les médicaments, en fait. Et la répression à l'extérieur de la prison, ça commence aussi par tous ceux qui se lèvent le matin et qui bouffent deux antidépresseurs, quoi. C'est de l'autorépression. Et en prison, c'est évidemment vachement développé. Franchement, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques qui permettent de dire combien bouffe quoi. Mais putain, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Moi, mon co-détenu, c'était tous les matins, quoi. Et c'était des méthadone. Bon, voilà, c'est des cas particuliers. Mais je veux dire, t'es pas camé, tu demandes de la méthadone, à mon avis, tu l'as. Hein. Je pense que tu l'as. Hein. Et les gens se calment, en fait. En prison, massivement, quoi. Sans parler du bédo, hein. Bon, c'est bien le bédo quand t'es en prison, c'est bien, je veux dire, c'est bien, ça permet de t'échapper un peu, mais c'est pas non plus émancipateur, quoi. Et en prison, ce que tu remarques, c'est que ça se défonce aux médicaments, ça se défonce au bédo, et ça se défonce à la télé, quoi. Et c'est un peu le mode de gestion interne, quoi. Et c'est quand même un problème, quoi. Je veux dire, c'est quand même scandaleux, quoi. Et pareil, un autre truc, là, sur le côté petit commerçant, moi, c'est vrai que j'ai vachement vu ça en prison. Moi, je suis arrivé en prison et je suis arrivé dans un cours de promenade et tout. Bon, voilà, t'es un peu flippé et tout. Bon, t'arrives dans un cours de promenade, tu dis, bon, toi, c'est la prison, tu vois. Toi, tout l'imaginaire derrière, toi, depuis que t'es tout petit, c'est la prison et tout.
C'était pas ça, je tire en prison.
Ouais, c'était pas ça, je tire en prison, je vais tomber sur des foutarés. On va se défoncer au couteau à tous les coins de couloir. Bon, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. T'arrives globalement, t'as des discussions intéressantes et tout. Donc voilà, moi je suis arrivé avec l'esprit, voilà, moi je suis là parce que j'étais dans le mouvement social contre la loi travail. Les mecs, pour faciliter, il y en a deux, trois, ils m'appelaient anarchie, comme ça c'était réglé. Et voilà. Et en gros, et ils aimaient bien discuter un peu avec moi. Il y avait une forme de respect du truc. Et en discutant un peu avec les gens, voilà, c'était un peu le côté politique, il est quand même assez faible, quoi, faut le reconnaître. Moi, dans ma courte promenade, je veux dire, je pensais à, j'étais un peu franchement le seul à être venu là, en tout cas qui se revendiquait un peu comme politique. Il y en avait d'autres qui disaient les matons c'est tous des bâtards, les juges c'est tous des bâtards, et qui de fait, de toute façon, vu leur vie et comment ils ont été cassés par le système, c'est de fait, je veux dire, des mecs qui sont révoltés, tu vois, c'est un fait. Mais c'est vrai qu'il y a l'aspect petit commerçant, et que moi ce que je voyais, c'est que ceux qui avaient pris des longues peines, en fait, ça devenait un peu les mecs qui géraient le commerce à l'intérieur de la prison, parce qu'il faut bien passer le temps, quoi. Et je me suis dit que, j'en sais rien, mais vu ce que tu avais l'air de dire avant, j'ai l'impression qu'avant, les longues peines, c'était peut-être plus ceux qui assumaient le côté politique du truc. Mmh,
tout à fait.
Et là, j'ai l'impression qu'ils assument plus le côté business, en fait. Ce qui est chiant, quoi. Parce qu'effectivement, c'est souvent dans des histoires comptables de l'autre, il doit nananan, il doit ça à un tel... Et s'il prend le téléphone et qu'il n'a pas rendu, alors on va le défoncer. Et voilà. Et ce côté petit commerçant, j'ai l'impression qu'il a été bien compris par l'administration pénitentiaire, qui renforce ça par le côté, ce qu'on disait tout à l'heure, réduction de peine, etc. Ce qui fait que les gens sont constamment en train de calculer qu'est-ce qu'ils doivent marchander pour avoir leur tushy, leur truc, leur machin. Et en plus de ça, ils sont constamment en train de calculer qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire pour avoir leur réduction de peine. Donc, on est vraiment dans le truc de base, voilà, de l'homo economicus, du capitaliste, du mec qui est auto-entrepreneur de sa force de travail.
De sa propre vie, ouais.
Et il est auto-entrepreneur de sa connerie, en fait. Et, ouais. Et mais, ouais, ça, c'est un truc que j'ai vraiment vu et dont je peux témoigner, quoi. Bon, après, moi, je suis resté 6 semaines, donc je vais pas en faire des tonnes, voilà, sur le truc carcéral. Mais autre chose, si, quand même, les matons, quoi. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué un peu, c'est de voir à quel point, en fait, tu te rends compte, en prison, à quel point, en fait, l'État et les matons, ils gèrent les moindres parcelles, les moindres détails, mais poussés de la vie des gens, quoi. Bon, moi, comme je suis resté 6 semaines, je pouvais me permettre d'être hermétique et de leur dire, de toute façon, moi, je m'en bats les couilles, dans 6 semaines, je pars. Et les mecs, compris beaucoup plus, ils sont obligés de composer à un moment donné avec l'administration pénitentiaire. Ou alors, vraiment, tu pars dans une vie de fou dingue où tu te fais... Enfin, voilà, ça existe aussi, mais il y a un moment donné, ça va être des cas concrets, ça va être... Mais ma femme qui doit venir, machin. Et c'est le maton, en fait, qui va décider des aspects concrets de la vie des gens, qui vont mentir aux gens, qui vont dire, mais non, mais ton père, il veut plus te parler. Voilà, il manque les gens. Ta femme, elle t'aime plus. Des choses comme ça qui se disent en prison, genre, si tu fais pas ça, moi, je vais faire en sorte que ton gamin, tu vas voir, la prochaine fois qu'il va venir pour ton truc de parloir, on va lui dire que tu veux plus le voir. T'imagines si on lui dit ça? Mais c'est des trucs de fou, quoi. Mmh. Et c'est l'administration pénitentiaire qui gère les moindres recoins de la vie des gens. Et c'est un sentiment de domination c'est horrible, je veux dire, c'est pas acceptable, quoi. Donc, voilà, je vais redire juste ce qu'on savait déjà, mais que la solidarité avec tous les prisonniers, parce qu'on n'est pas là pour rejuger les gens, une fois qu'ils sont déjà en taule, c'est voilà, l'axe, je pense, moi, qui est le bon, de rallier à la question sociale, parce que oui, c'est une réalité qu'on sait déjà, mais c'est devenu un peu has-been de le dire, mais en fait, non, c'est la réalité. Les pauvres sont en prison. Il faut arrêter de psychologiser le truc, de dire pourquoi, quel est ton instinct, quel est ton rapport intime avec l'autorité, est-ce que tu n'aurais pas un problème, au fond, personnel, intime. Non, c'est des problématiques sociales de pauvreté qu'il faut traiter en tant que telles, quoi. Et moi, voilà, je témoigne un peu. Moi, j'ai des copains qui sont venus à l'extérieur pour me filer un grand coup de main en mode, voilà, on fout des feux d'artifice, on fait tout péter, on tape partout. Et à l'intérieur de la prison, c'était un bordel monstre. Ça a tapé de partout. Les gens, ça cache ta cache, quoi. C'était vraiment... ça a foutu un gros bordel. Et ben, mine de rien, ça, les gens, les prisonniers, ils trouvent ça intéressant. Et ils viennent te voir, ils disent, putain, et tout, c'est cool, merci, quoi. En fait, merci, quoi. Il faut, c'est là-dessus, moi, si je peux apporter mon témoignage, c'est effectivement, je pense que c'est ça, il faut continuer à faire ce boulot de solidarité, d'essayer de généraliser, quand il y a un militant qui va en prison, et bah, d'en profiter pour essayer de généraliser sur la question de, effectivement, comme on disait tout à l'heure, à quoi sert la prison, qui, comment, etc. Et d'essayer de rencontrer, même si c'est compliqué, les familles des prisonniers pour essayer de tisser des liens, parce que les mecs, je pense, qui ont vécu la tôle, il n'y a pas besoin de leur expliquer mille discours sur la nécessité de s'en prendre à l'État, au système capitaliste, etc. Il y a deux faits, ils ont vu des choses qui font que voilà, quoi. Ils ont quelques billes, quoi. Et oui, et sur les matons, moi, le lendemain du bordel qu'on a foutu dans la prison, là, le chef de mon aile, il me convoque dans la prison. Il me dit, alors Jules, t'es libérable quand? Je lui dis, bah, je suis libérable le 20 août. Et il me dit, bah ouais, mais si je trouve un truc dans ta cellule, du shit, un téléphone, tu vas rester plus longtemps. Moi, je lui dis, bah vas-y, fouillez, vous trouverez que dalle. Et là, il me dit, bah mais si c'est moi qui mets un truc dans ta cellule, je vais forcément le trouver. Ah bah oui, ouais, bah oui, c'est vrai. Voilà, mes menaces...
Moi, je voulais juste compléter 2 secondes de ce que tu disais, parce qu'il y a un truc qui est super important, c'est effectivement faire ce travail d'enquête sur ce que c'est que la prison aujourd'hui, qui va en prison et à quoi ça sert. Être là quand il y a un mouvement à l'intérieur. Ça, c'est vraiment hyper important. Parce qu'il ne faut surtout pas, quand les prisonniers décident de se battre, et on voit la difficulté que ça représente, les laisser seuls. Ils ont des choses à dire. Dans ces moments-là, ils disent des choses, ils se battent, savoir pourquoi ils sont rentrés en mouvement et essayer de se solidariser et d'inclure ces luttes dans le mouvement, comme appartenant au mouvement contre cette société. Quoi. Donc, bon, je pensais à ça. Et puis, une chose quand même super importante et qu'il faut absolument dire, hein, moi, je ne suis pas du coin, mais quand même, là, il y a un projet de construction de nouvelles prisons. Je ne sais pas s'ils auront les ronds, mais enfin, en général, pour ce genre de projet, malheureusement, ils les trouvent. Hein, pour construire des logements sociaux, il y a problème. Mais bon, pour les prisons, ce n'est pas un souci. Il y a quand même 33 nouvelles prisons qui vont être construites sur l'ensemble de la France, dont 20, et avec en plus 28 quartiers de préparation à la sortie. Donc, ce n'est pas très clair encore ce que c'est que ça. Il va falloir se renseigner. Mais entre autres, donc, deux prisons à Montpellier. Hein. Ouais.
Il va falloir se battre. Voilà.
Pour dire, le chômage ne va pas être endigué. Hein. Voilà. Il ne compte pas s'en occuper. Hein.
Bah avant d'entamer peut-être une discussion un peu pratique, justement, pour savoir comment faire pour soutenir les luttes de prisonniers, comment faire, enfin voilà, un peu pour qui pourra servir à tout le monde d'ailleurs, pas qu'à Montpellier. Peut-être on pourrait revenir juste avant quelques secondes sur des trucs que les gens ne connaissent pas forcément beaucoup. Ouais, c'est la question du prétoire.
Ouais.
Parce que tu vois, toi, t'as mis en avant la question de l'arbitraire, en fait, quoi. Que quand tu rentres en tôle, t'es jeté dans un système, bon, de la justice qui est déjà arbitraire, mais un arbitraire qui s'aggrave, quoi, une fois que tu rentres à l'intérieur des murs. Et les gens, ils savent pas, mais c'est vrai qu'il y a un tribunal à l'intérieur de la tôle où tu peux rester en tôle presque ad vitam, quoi. Et donc, voilà, quoi, comme c'est une institution qui est pas beaucoup connue, peut-être est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, toi peut-être sur les trucs que tu avais vus, et expliquer un peu, quoi, et puis toi Nadia reprendre après.
Ouais, bah, rapidement là, sur le prétoire et le mitard, ça va un peu ensemble quoi. c'est scandaleux, je veux dire, c'est un truc, même le citoyen le plus humaniste, toi, le mec juste, il pense que tu vois, la justice ça tourne à peu près rond, que c'est pas vrai qu'on met les pauvres en prison, etc. Effectivement, si tu expliques un peu le prétoire et le mitard, ça scandalise tout le monde. Moi je m'en rappelle, par exemple, au tout début, mon premier co-détenu, tout premier, 3-4 jours, c'était un mec qui était fou. Il était fou. Il avait rien à foutre en tôle. Et du coup, des fois, il pétait les plombs. Et bah, prétoire, mitard. C'est-à-dire prétoire, c'est-à-dire en gros, ou mitard prétoire d'ailleurs, j'ai l'impression aussi. C'est-à-dire en gros, voilà, on te juge dans la prison pour que tu te retrouves isolé. Et souvent, le mot isolé, en fait, il est un peu faible. En fait, pour que tu te retrouves torturé quand même. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu te retrouves, le mitard, je crois que c'est jusqu'à 45 jours, il me semble, maximum. Il y a un moment donné, quand tu te retrouves 45 jours en tôle, parce que dans ta tête, tu as un problème, et qu'on te fout 45 jours en tôle, dans ta tête, tu as un problème, ça peut être autre chose. Hein. Ouais. Ça peut être parce qu'on t'a chopé avec du shit, ou parce que tu as envie d'appeler ta femme et que tu as eu un téléphone. Il y a un moment donné, quand tu tortures les gens pendant 45 jours dans une pièce noire, où tu sors seul en promenade, où tu sors pas en promenade, et où tu as un trou au fond de la pièce dégueulasse et tout machin, c'est de la torture. Donc en France, on torture les gens. On torture les gens dans les prétoires et les mitards. C'est scandaleux.
Et le prétoire, en fait, est-ce que tu prends des peines additionnelles en fait, à ta peine et tu restes...
Ça enlève les réductions de peine.
Ok.
Donc du coup, c'est des peines en plus, quoi.
Ouais. Ok.
Et c'est le directeur de prison, deux surveillants-chefs. Et maintenant, depuis quelques années, il y a la possibilité d'avoir un avocat. Mais enfin, quand il se déplace, parce qu'il faut quand même se déplacer, tu vois. Et puis, où est le contradictoire, hein? Si les mecs, ils ont envie de t'enfermer, ils t'enferment. Et puis, basta. Hein. Donc, c'est une prison dans la prison.
Ouais.
C'est comme, tu dirais, les cachots, quoi.
Ouais.
Et après, il y a encore plus que ça, moi, je trouve. Moi, le vrai truc, franchement, qui me faisait flipper, tu vois. Enfin, le vrai truc, moi, je trouve, c'est en fait de reprendre une peine quand t'es en prison.
Voilà,
c'est ça. C'est ça, le truc le plus dingue, moi, je trouve. C'est qu'il y a des gens, ils se battent, par exemple, à l'intérieur de la prison, mais ils vont prendre 6 mois de plus. Je veux dire, c'est quand même un environnement, tu vois, qui pousse les gens à péter des plombs. Les gens qui se retrouvent avec des téléphones dans leur cellule, parce qu'il y a un moment donné, ils ont une vie de famille et qu'ils veulent savoir leur gosse qui est malade, en fait, l'opération s'est bien passée, nanana. Et tu vois, les mecs, ils appellent pour ça, ils se font choper et ils prennent de la tôle en plus. Faut imaginer ce que c'est, quoi. Ou ça va être un maton et qui va dire à l'autre, qui va l'humilier. Tu vois, genre, en fait, ta famille, ils n'ont plus rien à foutre de toi, machin, toi, des trucs comme ça. Et le mec, il va lui répondre, mais putain, mais va te faire foutre, c'est toi, je vais te tuer un de ces jours. Et ben hop, mais quand je dis hop, rebelote, ça peut être rebelote 6 mois, quoi.
Ah, 6 mois, un an, 2 ans, complètement.
Et c'est là où tu te dis, mais en fait, ça finit pas, quoi.
Il y a vachement de cas de jeunes et de moins jeunes, hein, qui tombent en prison, déjà pour outrage, la plupart du temps, mais pas forcément, et qui se retrouvent, bah, ils vont prendre une peine de 1 an ou 2, et ils se retrouvent 8 ans après, toujours en détention. Je veux dire, mais c'est des cas, c'est pas isolé, hein, c'est vraiment une gestion après, si tu veux. C'est ok, t'as pas compris, mais on va te faire comprendre. C'est nous qui avons le pouvoir, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, et toi, t'as juste le droit de fermer ta gueule. Si t'as encore un sursaut de révolte ou d'indignation en toi, on va te le casser, on va te le détruire, on va te, tu vois. Et c'est ça quoi.
L'autre point aussi qui serait intéressant un peu d'évoquer, c'est la question de un peu de la psychiatrie et des médicaments en tôle et de toutes ces questions autour de là quoi, parce que bah voilà, on voit que, enfin tu vois, avec les témoignages que tu disais quoi, et puis avec la généralisation des médicaments, on voit qu'il y a, enfin il y a toute une question quoi autour de ça quoi. Il y a plus d'accueil pour les gens qui sont en souffrance psychique, donc ils se, je veux dire, visiblement quoi, le nouveau psychothérapeute c'est le maton quoi. Donc qu'est-ce qui se passe,
c'est très simple, c'est que dans cette société il y a que le pèse, c'est moins l'argent, l'argent c'est moins cher d'enfermer quelqu'un en prison que de l'enfermer dans un hôpital. Donc du coup, si tu veux, comme il y a une déshérence, enfin je veux dire un manque de réflexion sur la question du traitement de la folie ou de la déviance aujourd'hui, eh ben on va le traiter par l'enfermement. C'est vraiment une régression terrible par rapport à toutes les réflexions qui ont pu être menées dans les années 70. Mais en plus, comme la prison coûte moins cher, eh ben autant l'enfermer directement en prison, moi. Comme ça, ça coûte moins cher aux contribuables. Mais c'est un délire, quoi, parce que tu as des gens, ils sont malades, ils sont vraiment en souffrance, quoi. Et ils se retrouvent enfermés dans une cellule. Je veux dire, les mecs, Et sans compter tout un tas de gens aussi qui, tout simplement, ne supportent pas l'enfermement.
Mais bien, ouais.
Parce que moi, je sais pas, mais s'imaginer... Enfin, je sais pas vous, mais moi, si je sors pas au moins un petit peu tous les jours dehors à marcher... Je vais pas bien. Imagine que tu ne peux pas sortir, que tu n'as pas les clés de ta porte, que tu ne peux pas ouvrir ta porte, que tu es dans un cube de béton et qu'on te laisse sortir deux fois une heure par jour dans le meilleur des cas, et que voilà, c'est tout ce que tu as. Mais il y a de quoi, y a de quoi devenir fou, quoi.
Ouais pareil, donc, je veux dire, ça rend dingue. Bon, moi, j'ai fait 6 semaines, mais je n'ai pas pu voir ça, machin, etc. Enfin, personnellement. Mais j'ai eu des témoignages, toi, des directs. Genre, un mec, tu vois, genre, avec son co-détenu, c'était la guerre. C'est pas drôle d'être à 9 mètres carrés.
La guerre en 9 mètres carrés.
Tu vois ce que je veux dire, ouais. C'est quand même un truc de dingue. Et le mec, il pétait les plombs pour se faire changer de co-détenu, quoi. Et en fait, il n'a pas réussi. Et en fait, un jour, il s'est mutilé. Et genre, sur son dos et son ventre, il y a des traces de mutilation qu'il va garder à vie. Et il a réussi à changer de co-détenu. Quand dans ta tête, tu te dis, OK, pour changer de cellule, je me mutile, tu peux que avoir des séquelles psychologiques, je pense. Ça peut que rendre barjot.
Et d'ailleurs, juste quand même pour dire que les derniers mouvements de lutte qui ont eu lieu dans les prisons, il y a eu pas mal, quelques prises d'otages. Mmh. Et quand on sait pourquoi, c'est-à-dire que c'est des prisonniers qui ont pris en otage une psy, pour pouvoir bénéficier d'un rapprochement familial. Ce droit est inscrit dans le code de procédure pénale. C'est un droit pour les prisonniers d'être rapprochés de leur famille. Parce que quand tu as 10, 15, 20 ans et que ta femme ou ta petite copine ou ton petit copain, il doit se taper 800 bornes, comme pour les Basques par exemple, 800 ou 1000 bornes pour venir te voir une demi-heure ou une heure, tu vois, je veux dire, vaut mieux quand même, enfin ça demande beaucoup d'argent, souvent ce sont des gens qui n'en ont pas beaucoup, enfin tu vois, c'est compliqué. Ça rebondit sur toute la famille, tu vois. Donc, voilà, ça paraît logique que les gens soient incarcérés près de là où la personne vient le voir. Et t'as des gens, ils sont obligés de prendre en otage des gens pour avoir un rapprochement familial ou le demander. T'imagines un peu le truc quand t'as des mots, mais que tu peux pas les voir. Enfin, tout est fait, si tu veux. À la fois, c'est peut-être des fois calculé, puis il y a des fois, c'est même pas calculé. C'est tout simplement qu'ils en ont rien à foutre de ta gueule. Ben t'es juste un numéro crever. Et tu peux crever, quoi.
Et l'autre point aussi, tu vois, ça rejoint le truc, mais on en a déjà un peu évoqué, mais c'est quoi cette histoire, tu vois, des médicaments, quoi. Quand est-ce que c'est rentré? Quand est-ce que c'est devenu massif? Parce que là, la manière dont tu décrivais le truc, c'est que tu vois, il y a quand même pas mal de gens qui prennent des médicaments, qui a une atmosphère un peu de camisole chimique et tout. Et voilà quoi, est-ce que tu peux un peu étayer là-dessus? Et puis toi, Nadia, nous raconter un peu c'est quoi l'histoire de cette affaire, quoi.
Bah, juste rapidement sur comment ça se passe. En fait, le matin, l'infirmière, elle arrive avec son chariot là. Elle passe devant les portes et c'est la distribution, quoi. Et générale et massive, quoi. Et vraiment, moi je te dis, si t'as plus de PQ, tu peux taper à ta porte comme un mort. Toi, tu peux faire, donnez-moi du PQ et tout. Tu tapes. Ouais. Franchement, tu peux attendre, mais longtemps, quoi. Et, franchement, t'arrives, tu dis, donnez-moi des médocs. hop, ça vole par le dessous de ta porte, quoi. Toi, vraiment, c'est comme des petits pains, quoi. C'est pas une... Moi, c'est ce que j'ai vu, c'était distribué comme des petits pains. Voilà.
C'est un mode de gestion, quoi.
Ouais, mais carrément, la camisole chimique. Avant, il y avait des statistiques qui étaient réalisées sur les médicaments qui étaient pris avec les noms et aussi le nombre. Aujourd'hui, ces statistiques n'existent plus. Donc, pour te dire, et à l'époque, ça représentait énormément de prisonniers. Et il y a même des prisonniers, enfin, je veux dire, c'est un combat presque pour ne pas les prendre. Tellement au bout de X années, tu vois, tu pètes les plombs complets que tu as juste envie de t'endormir, quoi. Ah. T'endormir le cerveau pour plus penser. Et on peut le comprendre, hein. Et donc, c'est vraiment une lutte que de dire je reste vivant, je reste lucide, conscient et je continue, tu vois. Ça veut dire aussi que c'est souvent des gens qui lisent, qui essayent de faire des études, qui essayent, tu vois, d'organiser leur vie de manière à sortir pas complètement lobotomisé, quoi. Mais c'est vraiment pas facile parce qu'en plus avec la télé dans les cellules, quand t'es 3 ou 4, t'en as forcément un qui veut regarder, donc du coup t'as la télé 24-24. Et bon, on connaît les pouvoirs de la télé sur le cerveau, c'est un peu destructeur, quoi, tu vois.
Et tu disais aussi, pour rebondir là-dessus, après je poserai une dernière question.
Ouais, parce que...
Ouais. Et c'était, tu vois, tu disais, est-ce que ça a été interdit, en fait, de passer des diplômes
Ah oui, il y avait un truc, non, mais parce qu'il y a deux, trois trucs comme ça. Je voudrais juste rajouter avant de, quand même. C'est que, moi, il y a une chose qui m'avait paru vachement intéressante, c'est qu'en 86, ils ont arrêté de donner des remises de peine pour passage de diplôme. Et pourtant, c'était quelque chose qui était extrêmement dynamique. Il y avait énormément de prisonniers, mais qui passaient pas forcément des grandes, qui faisaient pas des grandes études, mais un CAP de machin, un BEP de truc. Ouais. Et puis après, tu as eu quand même des cas de prisonniers qui ont suivi des très hautes études. Ouais. Je veux dire, comme Philippe Maurice, qui est devenu un spécialiste du Moyen-Âge. Bon, enfin, donc, et c'est un mec qui aurait dû passer, qui aurait dû mourir. Hein. Il aurait pu être condamné à mort, ce mec. Ouais. Hein. Aujourd'hui, il est spécialiste du Moyen-Âge. Donc c'était extrêmement stimulant. Et du coup, ça faisait que aussi, bah, du coup, pour suivre tes études, il fallait que les autres y t'aident, il fallait que, tu vois, il y ait un peu de collaboration, de réflexion. J'ai lu tel livre, c'est plus intéressant que tu as vu le dernier film pourri. Enfin bon, ouais. Donc du coup, ils ont enlevé ça en 86, en même temps qu'ils ont mis la télé. Voilà, pour moi, c'est assez significatif.
Okay. Et j'ai un truc qui me revient d'un coup, là, comme ça, d'une scène, tu vois. Effectivement, j'ai un peu... j'ai fait que de bouquiner. Je me suis pris le Capital de Marx, mais au moins, je l'aurais eu. Donc, voilà. Et du coup, on échangeait. On avait d'autres bouquins. On échangeait des bouquins. Et à un moment donné, avec l'autre nana, et ça faisait chier le maton. Elle nous l'avait dit. Vous n'êtes pas là pour réfléchir. Voilà ce qu'elle nous a dit, tel quel.
Bah oui, ils réfléchissent pas.
Et la dernière question, parce que quand même, c'est une question un peu de curiosité et tout, c'est putain, le shit, quoi. Genre, y en a v'là, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il y a v'là de shit, et tu te dis, bon, il y a toujours les trucs, tu vois, tu regardes des séries américaines, tu te dis, manana, le maton et tout, il aide le dealer de shit et tout, et c'est, ben voilà, c'est quoi un peu la réalité de tout ça, quoi, le shit, comment il est. Bah bon, comment il rentre en prison, bon, ça, on va pas faire de mystère non plus, quoi. On n'est pas là pour résoudre des... Hein, on est pas... Je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec les matons, le shit, comment ça cohabite, comment ça cohabite pas
Moi, je dirais que c'est un moyen de pression extraordinaire, parce qu'à la fois, ça pacifie complètement et les quartiers et les prisons.
Ouais, c'est vrai.
Alors, à la fois, si tu veux, c'est festif, c'est sympa, c'est agréable, etc. Mais on peut pas non plus nier le pouvoir pacificateur du shit sur les quartiers... et sur la prison. Donc bon, j'ai envie de dire à qui profite le crime, à l'administration pénitentiaire. Ouais. À la fois, ils ont intérêt à laisser passer le délire, et en même temps, elle peut à tout moment le faire cesser.
Voilà, c'est ça le truc.
Et punir la personne qu'elle a laissé faire pendant des mois, mais pareil que dans les quartiers.
Ouais.
C'est-à-dire, ils vont te laisser des fours exister pendant des années, et puis le jour où ils ont envie de te faire chier, bah, ils viennent et puis ils te cassent ton business. Et ils t'arrêtent les mecs. Alors que rien à foutre pendant hyper longtemps. Ça dépend, c'est eux qui gèrent, après c'est eux qui décident.
C'est vrai, sur comment passe le shit, hein, je veux dire des trucs que je pense que tout le monde le sait. Ça, bah, les parloirs, hein, je veux dire. Les gens, ils en sont à ramener, à planquer de la viande. Est-ce qu'on parle de shit là, mais il n'y a pas que ça qui passe. Hein. Les gens, ils dealent aussi de la viande à manger. Quoi. Tu vois, la misère sociale, le truc. les colis, ça c'est quand même marrant, faut quand même voir le courage aussi des gens quand même. On est dans une prison, il y a des gens, ils se cassent le cul à jeter des colis par-dessus les murs de l'enceinte pendant la cour de promenade. Et les mecs qui sont dans la cour de promenade ramassent le truc, le jettent à un mec, à une cellule, qui le font passer par les yo-yo, et les yo-yo, c'est les cordes qui sont entre les cellules. Il y a quand même des gens qui ont du courage, quand même. Ouais. Tu vois un peu le mec, quand même, il... Enfin, moi, je trouve... C'est du shit, mais il y a quand même un aspect, tu vois, courageux, quoi, à se casser le cul. Et après, juste sur l'aspect de... Ils arrêtent ça quand ils veulent. Moi, j'ai dit, toi, des bribes de discussion qu'il y a dans les... Quand ça gueule, tout, dans les... sur les murs, quoi. C'est les mecs qui disent, ouais, putain, je suis sûr, là, ils vont tout arrêter, là. C'est, je suis sûr, là, ils vont tout arrêter, dans le sens où, effectivement, il y a un... Enfin, il y a une... Il y a un contrôle et ils peuvent faire là, stop, là, oui, là, non, là, un peu, là.
C'est arbitraire.
Ouais, c'est arbitraire.
Eh ben, vas-y, là, on
et
va...
Et moi, je voudrais juste dire quand même une chose, parce que on a très peu parlé des quartiers d'isolement, et des QHS, mais c'est pas grave, on se reverra peut-être un jour. Ouais. Quartiers de haute sécurité qui ont été soi-disant abolis donc en 83 sous Mitterrand. Ça faisait partie de son programme électoral et immédiatement remplacé par les quartiers d'isolement. Ce sont des tombeaux où l'administration pénitentiaire enferme les prisonniers qui tentent de s'évader, qui se révoltent, qu'elle n'arrive pas à gérer. Et c'est vraiment, là on a parlé du mitard, c'est 45 jours. Déjà, c'est insupportable, hein, mais l'isolement, ça peut durer des années, quoi. Donc, c'est un truc de fou. Et le mouvement des prisonniers et le mouvement à l'extérieur de soutien avaient réussi à obtenir son abolition. Et il a été juste remis sous une autre appellation. Je pense que c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut se battre. Pas seulement sur la question de l'isolement en général. Isoler des gens, c'est les détruire, on le sait, quoi. C'est de la torture blanche et c'est... enfin, je pense qu'il faut vraiment se battre contre ça. La deuxième chose qui me paraît être centrale dans la lutte contre les prisons, c'est la longueur des peines. En fin des années 70, début des années 80, la peine maximum était 18 ans. C'est-à-dire quand on prenait perpétuité, on faisait 18 ans maximum. Aujourd'hui, on est des 30, 40 et on est sur une logique de perpétuité réelle. Je veux dire, Le Pen, Macron, tout ce que tu veux, ils demandent la perpétuité réelle. Quoi. Les mecs, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Pourquoi pas enterrer quelqu'un vivant aussi, tu vois, et puis le dépecer, lui remettre la roue. Donc du coup, moi, je pense qu'il faut vraiment se battre sur cette question de longueur des peines. Alors bien sûr, on va dire oui, mais c'est en opposition avec le fait qu'on est anticarcéral, on est contre les prisons. Il faut bien commencer par un bout. Et moi, je pense que pour les gens qui sont à l'intérieur, le fait de demander que les peines soient de plus en plus courtes, c'est concret, c'est complètement concret. Et je pense que ça n'empêche pas, par la suite, de dire qu'on est quand même pour l'abolition des prisons. Mais en tous les cas, là, il faut absolument se battre sur la réduction des peines, parce que on enterre des gens vivants, là. Je crois que c'était à Clairvaux, il y a des prisonniers, il y a une dizaine d'années, qui avaient dit « Soyez cohérents, tuez-nous, rétablissez la peine de mort ». Pour ceux qui le désirent, là, vous êtes en train de nous enterrer vivants. C'est pire, c'est de la torture, c'est encore pire que de tuer quelqu'un.
D'où les suicides aussi en prison ?
D'où les suicides. Les suicides, c'est un peu plus compliqué parce que les suicides, ils interviennent souvent au début de la détention. Ouais. Et puis après, pour les très longues peines, on court. Mais c'est pas tout à fait le même registre. Là, c'est de dire, soyez cohérents plutôt que de nous enfermer à vie. Au moins remettez la peine de mort.
Et par rapport à ça, c'est une formule, en fait, que je crois, d'ailleurs, ceux avec qui t'étais étaient à l'origine, moi, c'est une formule qui m'a fait tilt. C'est, ouais, en fait, ils ont remplacé la peine de mort par la peine
jusqu'à
la mort. Et en fait, ils ont, du coup, ils n'ont pas vraiment supprimé la peine de mort.
Exactement.
Et maintenant, si on est un tout petit peu cohérent dans des idées un peu machin, humanistes, etc., il faut être contre la torture, en fait. Et si on est contre la torture, on est contre l'isolement. Point barre. Il n'y a pas d'histoire d'aménagement, truc machin. C'est point barre. C'est les peines.
Et pour tous.
C'est délire. Et pour tous.
Et la prison est une torture, en fait, de manière générale.
Ouais. Oui, de toute manière.
De toute façon.
Mais bon, plus les peines sont longues, les plus c'est irréversible, quoi. Donc, voilà.
Quand même quelques mots pour dire un peu c'est quoi les pistes de réflexion qu'on a eues sur Montpellier pour penser ces questions-là. Il y a eu donc un comité de vigilance des comparutions immédiates qui a été lancé. Donc il s'agit d'aller voir les comparutions immédiates, savoir qu'est-ce qui s'y passe, prendre contact avec les gens. Il y a la volonté d'écrire un tract assez simple qui s'adressait aux proches et aux familles des détenus pour bah voilà essayer pareil de créer du lien. Il y a l'idée s'adresser à la population en général et commencer bah voilà une lutte, une campagne, je sais pas comment appeler ça, bah contre la construction de ces nouvelles prisons en coordination avec tous les comités bah voilà qui partagent la même perspective. Et quoi d'autre encore, bah c'est à peu près c'est là où on veut aller, et voilà, on encourage tout le monde à prendre ses réflexions à bras le corps et surtout à la prochaine fois. Et ben voilà, on a dit tout le monde déteste la justice, tout le monde déteste la police, qu'on aille un peu plus loin, qu'on dise tout le monde déteste la justice, tout le monde déteste la prison, qu'on soit pas là simplement pour défendre nos potes, nos connaissances, et qu'à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui rentre en prison d'entre nous, et ben que ce soit l'occasion pour lui, pour nous de mener une réflexion voilà,
une sur enquête, ça. Ouais. Ouais.
Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On place des dédicaces? C'est l'heure des dédicaces?
Dédicaces à tous les prisonniers de VLM.
pareil. Bah pareil.
Ah, bah, t'as pas une autre dédicace? Non. Ah, ouais, ouais. c'est moi qui vais dédicacer. Bah pareil, hein, comme je vais pas faire dédicace à ceux qui sont derrière les barreaux, ça a été déjà fait. Alors plus humblement, bah voilà, dédicace à tous les comités de défense collective, de solidarité face à la répression.
Voilà, donc c'était une émission de sortir du capitalisme, donc consacrée à la prison, comme si je peux résumer en quelques mots, outil de gestion de classe et de la misère sociale et de répression étatique, et qu'il faut évidemment, puisque c'est le titre de l'émission Sortir du capitalisme, abolir dans le cadre d'une société post-capitaliste, même si les modalités de ce dépassement, bon, je pense à un exemple, même s'il est sans doute imparfait, mais pour les gens qui se disent « oui, mais comment est-ce qu'on fait s'il y a quelqu'un qui viole ma sœur ?» Eh bien, la justice zapatiste, peut-être que c'est un petit peu plus intéressant que ce qui se pratique en France.
Carrément. Ouais, non, il faut réfléchir différemment. Pas en termes d'enfermement, en tous les cas.
Faut pas se venger, c'est pas bien la vengeance.
Ouais, exactement.
100 doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.